cette semaine, en cette veille de Pessah, eh bien, on revient sur la géopolitique mondiale actuelle, bien sûr, en se concentrant cette fois sur le rôle de la Russie et de la Chine dans le conflit qui oppose, bien sûr, Israël au Hamas. On écoute l'avis de Daniel Habert. Il est au micro de Blaise van der Linden, bien sûr.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis et Chag Pessah Sameach en ce jour de préparation du premier Seder.
Merci, merci à vous d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Daniel Habert, comme chaque semaine, nous allons décrypter la géopolitique mondiale et plus principalement la géopolitique du Moyen-Orient. En ce 22 avril, on connaît une nouvelle séquence dans cette guerre depuis le 1er avril. L'Iran a attaqué Israël, pardon. C'est majeur. Israël a riposté, c'est également majeur. Que peut-on dire de la position géopolitique israélienne dans cette veille du Seder de Pessah?
Écoutez, c'est la bonne nouvelle. Elle s'est magnifiquement redressée, cette position d'Israël. Avant le 1er avril, avant ce calcul politique assez puissant de la part d'Israël, critiqué par les uns et applaudi par les autres, et que moi j'applaudis évidemment, la situation d'Israël n'était pas bonne. Après 6 mois de guerre avec Hamas, ce qui se dégageait le plus, c'est le sentiment d'abord d'isolement d'Israël, des livres sortaient sur la solitude d'Israël, des premières pages de grands journaux, Israël isolé, donc c'est jamais très bon d'être isolé, seul contre tous. La deuxième, c'est qu'on voyait un Israël qui était sans arrêt soumis à des pressions, y compris de ses propres amis, et surtout de la part des États-Unis, une pression pour cesser le feu au fond le plus vite possible, peut-être contre les otages, mais ça signifie quand même la victoire du Hamas, ce qui est un désastre non seulement pour Israël, mais également pour l'Occident. Et donc, c'était une séquence où Israël résistait intelligemment à ses pressions. La troisième, c'est que, évidemment, les opérations militaires à Gaza prenaient du temps, étaient difficiles. Israël l'avait annoncé tout de suite, mais vous savez, il y a toujours une forme d'impatience. On voudrait qu'Israël gagne tout de suite, comme il l'avait fait les victoires en 6 jours. Bon, c'est plus comme ça, parce que c'est pas le même contexte. Donc, tout ça a été lent. Certains pouvaient prétendre qu'Israël n'arrivait pas à atteindre ses objectifs, ni de vaincre le Hamas, ni de libérer les otages, alors qu'en réalité Israël progressait. Et puis on voyait réapparaître, ça c'était la cerise amère sur le gâteau, à nouveau des divisions internes en Israël, dans le public et au sein même du cabinet de guerre. Donc tout ça a donné une image assez lourde, et au fond chacun sentait qu'il partageait cette tristesse de voir cette situation au fond négative. Et puis en attaquant le 1er avril à Damas, ceux qui préparaient un mauvais coup contre Israël et qui se réfugiaient dans un soi-disant statut diplomatique en étant dans un bâtiment dans le consulat, ces gens-là ont été liquidés par Israël, et ça a obligé l'Iran, et ça c'est la grande nouvelle, à se dévoiler. Ce n'est plus pendant 6 mois Israël contre le Hamas, maintenant c'est l'Iran face à l'Occident, et pas seulement à l'Occident, mais face à l'Occident, plus les Arabes sunnites alliés à l'Occident faisant face à l'Iran. Ça c'est majeur. Nous, on l'a dit depuis le début ici à Conversation, que la vraie question depuis le 7 octobre, c'est l'Iran. Mais on faisait semblant de croire que c'était la question palestinienne, que c'était un acte de résistance, que tout tournait autour de la solution à deux États, ce qui est la fake news au fond, la plus lourde et la plus importante. Donc maintenant, on a effacé cette fake news. À nouveau, c'est l'Iran qui est au centre du débat, et c'est quand même une bonne chose que de voir se révéler la vérité. La deuxième chose, c'est qu'Israël n'est pas isolé. Ça, c'est quand même la meilleure grande nouvelle. On a vu, notamment le jour de l'attaque, entre le 13 et le 14 avril, se dresser une coalition pour défendre Israël. Et cette coalition comprenait évidemment les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne réunie, non plus divisée mais réunie pour faire face à l'assaut, et puis les Arabes sunnites, faire corps pour protéger. Donc cette coalition a montré qu'Israël était loin d'être isolé. Ce qui a aussi été une bonne nouvelle, c'est que le système de défense de ce qu'on pourrait appeler un axe sunnite en train de se créer grâce à Israël, grâce aux États-Unis, avec tous les pays avec lesquels Israël a fait la paix ou est en train de négocier, dans le cadre des accords d'Abraham élargis bientôt à l'Arabie Saoudite, on a vu cette coordination magnifiquement fonctionner grâce surtout à l'action américaine et à un organisme qui est apparu ici sur le devant de la scène, le CENTCOM. Le commandement central américain, qui est à Qatar, qui est au Qatar, qui est à Doha, qui est géré à partir des États-Unis à Tampa, en Floride. Et on a vu le patron du CENTCOM, le général Michael Kuria, venir en personne en Israël pour organiser la défense. Je rappelle que 10 ans avant Kuria, l'homme qui dirigeait le CENTCOM, c'est l'actuel ministre de la Défense, Lloyd Austin. Donc on voit à quel point ces généraux sont d'une importance cruciale et ils passent leur temps à venir défendre Israël. Donc vraiment une séquence assez extraordinaire. Il faut applaudir l'acte audacieux d'avoir attaqué la force Al-Quds, les gardiens de la révolution à Damas le 1er avril.
Alors, Daniel Habert, par rapport à cette situation géopolitique, vous mentionnez le rôle des États-Unis, le rôle de la Grande-Bretagne, le rôle de l'Union européenne. Comment peut-on définir la situation des grandes puissances silencieuses, si on peut les appeler comme ça, comme la Chine et la Russie?
Oui, j'en parle dans un moment, mais je voudrais quand même rappeler que ce qui vient de se passer, c'est le grand retour des États-Unis au Moyen-Orient. Depuis 2011, depuis le pivot de Obama, la seule préoccupation stratégique des Américains, c'est de s'en aller du Moyen-Orient. Et depuis le 7 octobre, on voit bien que Biden voudrait bien se débarrasser de cette séquence de guerre avec le Hamas pour pouvoir se consacrer à sa campagne électorale et aussi pour passer à ce que les Américains appellent des choses sérieuses, c'est-à-dire la confrontation avec la Chine. Et donc aujourd'hui, on voit que les Américains ont compris qu'ils ne pouvaient pas le faire, que ce n'était pas leur intérêt et que peut-être le Moyen-Orient était plus crucial pour l'avenir des États-Unis que la confrontation avec une Chine, justement, dont on va en parler. Donc ça, c'est quand même très important de voir ce retour un peu forcé des Américains, et qui est pas définitif, mais quand même qui se sont là engagés, les porte-avions dès le 8 octobre et le CENTCOM dès le 2 avril. L'Europe, elle a montré une certaine forme d'unité pour une fois. La Grande-Bretagne qui est sortie de l'Europe, elle est aux côtés de l'Europe et l'Europe n'est pas divisée. On a même vu Borrell, le haut commissaire qui est pas vraiment un ami d'Israël, rassembler les forces de l'Union européenne pour protéger Israël. Donc ça, c'est vraiment une séquence. Alors maintenant, Russie et Chine, vous avez raison. Et alors, on voit bien quand même que la Russie a d'autres priorités hein, que le Moyen-Orient. C'est cette guerre en Ukraine où beaucoup de choses sont en train de se passer. Et on pourra en parler et qui sont liées d'ailleurs avec ce qui se passe en Israël. Donc les Russes ont les mains pleines et donc sont extrêmement prudents, condamnent même pas, n'ont pas rompu, n'ont pas cessé d'avoir des accords tacites avec Israël, parce que Israël continue à bombarder la Syrie, là où il y a des milices pro-iraniennes, là où il y a des livraisons massives d'armes iraniennes qui transitent par la Syrie pour aller au Hezbollah. Israël continue à les bombarder et les Russes ne s'y opposent pas, donc on voit quand même que les Russes condamnent, mais ferment les yeux. Quant à la Chine, elle a été la grande absence, elle continue à être la grande absence. Elle demande simplement de pas d'escalade. Au fond, elle se présente comme un facteur de paix. Et je pense que et la Russie et la Chine, on les reverra au moment où la guerre cessera, où on essaiera de bâtir quelque chose de positif dans un Moyen-Orient réorganisé. Et là, ils auront un rôle à jouer. Mais aujourd'hui, dans cette séquence guerrière, ils ont d'autres priorités et donc ils sont aux abonnés absents.
Pour terminer rapidement, Daniel Habert, il nous reste malheureusement plus qu'une minute dans ces conversations. On y reviendra évidemment. Quelles sont les évolutions prévisibles?
Écoutez, Israël a gagné une marge de manœuvre aujourd'hui, ce qui lui permet aujourd'hui de décider pour le long terme et pour le court terme. Pour le long terme, il est clair que la reprise des négociations avec l'Arabie Saoudite pour former ce qu'on pourrait appeler un axe sunnite face à l'axe chiite dirigé par l'Iran est en bonne voie, a été confirmée et se produira. Et sur le court terme, je crois qu'Israël a gardé des marges de manœuvre pour en terminer avec le Hamas. Je pense qu'une opération à Rafah ne saurait tarder, d'une manière ou d'une autre, hein, pas forcément par des bombardements, mais par d'autres opérations. En tout cas, Israël a gardé les mains libres pour avancer. Donc, il faut saluer ce qui est une sorte de victoire défensive d'Israël et ses alliés. Et donc, il faut se réjouir cette veille de fête. Alors, réjouissons-nous tous ensemble.
Eh bien, nous arrivons donc à la fin de ces conversations. Merci beaucoup, Daniel Haber, et bonne fête.
Avec plaisir.